Le dévoilement de Dieu numéro 229. S'ils avaient seulement connu la parole deuxième partie. Le 8 août 2021. Brian Kozurek. Pasteur. Messieurs, nous voudrions voir Jésus dîme 24 décembre 6173 ainsi. Si donc nous, même, dans notre ministère, dans nos pensées, dans notre vie, si nous restons tels que nous sommes, nous n'y pouvons rien faire de bon. Nous devons aussi mourir à l'autel. Sinon nous resterons seuls. Nous vivrons d'après une certaine dénomination ou un certain credo. Nous vivrons d'après une certaine organisation. Mais si nous mourons à nous-mêmes, alors le Saint-Esprit sera répandu partout par nos lèvres. Nous devons mourir. 74 Ainsi, aujourd'hui, beaucoup s'estèrent donc comme maintenant, si nous devons comprendre qu'il nous faut mourir afin de produire une nouvelle vie. Il a donc dit beaucoup de choses par ceci, si vous voulez me voir, vous devez mourir, mourir à vous-même, s'estère alors que vous produirez une nouvelle vie. Vous savez que l'apôtre Paul a dit dans Hébreux 9.27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, nous sommes ici dans un seul but, être testés par la parole et ensuite il est réservé à nous tous de mourir. C'est pourquoi je n'ai mis, comprends pas toute cette peur du Covid, et les gens ont si peur de mourir. Les chrétiens devraient être le moindre des personnes à garder la peur dans leur cœur. Et la raison même pour laquelle il nous donne son esprit, c'est pour que nous n'ayons pas peur. Il est réservé aux hommes de mourir. Après quoi vient le jugement? Nous avons tous ce rendez-vous et un jour où nous traverserons. Alors de quoi avez-vous peur? Si vous étiez dans sa pensée avant les fondations du monde, si vous mourrez du Covid ou de toute autre maladie, soit vous ressusciterez lors de la deuxième résurrection, et si vous n'avez mis mourrez d'aucun de ces maladies ni d'aucune autre forme de mort, alors si vous n'avez mis goûtez pas la mort naturelle, vous recevrez le changement du corps lors de cette même résurrection. Donc si vous y parvenez via la mort du corps ou vous y parvenez en n'ayant mis goûtant pas la mort dans le corps, de toute façon vous y serez. Alors de quoi avez-vous peur? Comme frère Branham l'a dit, si nous mourons à nous-mêmes, nous n'aurons jamais à mourir d'une mort physique. Et ainsi l'apôtre Paul nous a dit que tous les hommes craignent la mort. Alors Dieu a d'abord envoyé son Fils mourir pour nous tous. Il a pris notre place pour que nous puissions prendre la sienne comme fils. Et Dieu, sachant que l'homme a peur de la mort, a pris l'aiguillon de la mort quand son fils est mort à notre place, et ensuite envoyé cette même vie de Dieu qui était dans son fils sur tous les fils afin que nous n'ayons pas peur de la mort. Nous y reviendrons dans un instant, mais voyons d'abord ce que Paul a dit à ce sujet. Hébreux 2.9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tout. 1.0 Et elle convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire, à la doxa, beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. 1.1 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'est pas honte de les appeler frères. Le mot frère englobe à la fois les frères et les sœurs. 12 Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je l'annoncerai à mes frères et sœurs. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. 1.1 3 Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants de Dieu, que Dieu m'a donné, ce qui fait de ses frères. 14 Ainsi donc, puisque les enfants de Dieu, ses frères, participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, 15 et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Très bien. Avez-vous compris cela? Il a dit que ceux qui ont peur sont soumis à la servitude. Ainsi la peur vous met dans la servitude de ce que vous avez peur. Et les frères avaient peur de la mort. Mais par Jésus-Christ, le frère aîné d'une vaste famille de frères, a pris notre place dans la mort et cela a enlevé l'aiguillon de la mort, parce que Dieu l'a ressuscité et a promis de le faire pour le reste de ses enfants. 16 Car assurément ce n'Esther pas à des anges qui le vient en aide, mais s'Esther à la postérité d'Abraham. 17 Conséquence. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation ou pour faire la réconciliation des péchés du peuple. 18 Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et le mot secours signifie aide ou assistance, surtout en période de difficulté. Très bien. Alors nous pouvons voir par cette définition que s'Esther pour aujourd'hui, le jour où nous vivons. Nous vivons dans les derniers jours difficiles à vivre et à supporter. 2 Timothée 3.1 Mais comprenez ceci, que dans les derniers jours, des temps dangereux, de grands stress et de troubles surviendront, des jours difficiles qui seront durs à supporter. 2 Car les gens seront amoureux de soi, narcissiques, égocentriques, amoureux de l'argent, poussés par la cupidité, vantards, arrogants, injurieux, désobéissants aux parents, ingrats, impies et profanes. 3 Et ils seront sans amour, dépourvus d'affection humaine naturelle, insensibles et inhumains, irréconciliables, comme air malveillant, dépourvus de maîtrise de soi, intempérants, immorales, brutales, haineux de ce qui estère bien. 4 Traîtres, téméraires, vaniteux, amoureux du plaisir sensuel, plutôt qu'amoureux de Dieu. 5 Ayant une forme de piété extérieure, la religion, bien qu'ils aient renié son pouvoir, car leur conduite annule leur revendication de la foi. Évitez de telles personnes et éloignez-vous d'elles. Or dans son sermon qui est Esther C. Melchizedek, dîme 21 février 65, et ce frère Branham dit, 78 Alors, quand un homme naît de nouveau du ciel, il devient un bébé esprit en Christ. Et, lorsque cette robe de chair Esther abandonnée, cela signifie lorsque vous mourrez physiquement, il y a un corps naturel, une théophanie où nous allons. Un corps que des mains n'ont pas fait et qui n'Esther pas né d'une femme. Maintenant, l'apôtre Paul Néhémie l'a pas appelé une théophanie, mais un corps spirituel. 1 Corinthiens 15.42 Ainsi on est stérile de la résurrection des morts. Le corps Esther semi-corruptible. Si Esther le corps naturel, il ressuscite incorruptible. Si Esther le corps glorifié, 43 Et l'Esther semi-méprisable. Si Esther votre corps naturel, le produit d'une union sexuelle entre votre père et votre mère. Il ressuscite glorieux ou dans la gloire. Il ressuscite dans la doxa, il Esther se met infirme. S'Esther ce corps naturel par l'union sexuelle et la transmission de la semence charnelle dans l'utérus et puis la naissance, il ressuscite, dans la résurrection, plein de force. Une force spirituelle, 44 Or il Esther se met corps animal. Il ressuscite, dans la résurrection, corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45 Esther Pourquoi est Esther écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus-Christ, Esther devenu un esprit vivifiant. Un esprit de vie qui vivifie, 46 Mais ce qui est Esther spirituel, n'Esther pas le premier. S'Esther ce qui est Esther animal, ce qui est Esther spirituel vient ensuite. 47 Le premier homme, tiré de la terre, Esther terrestre, c'est-à-dire que par le corps nous sommes liés à la terre. Le second tome Esther du ciel. 48 Tel Esther le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel Esther le céleste, tels sont aussi les célestes. 49 Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 50 C'est eux que je dis, frères, c'est-à-dire que la chair et le sang ennemi peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Autrement dit, la mortalité n'hérite pas de l'immortalité. Ainsi donc, si vous êtes né dans un vase mortel, et si le mortel n'hérite pas de l'immortalité, alors il doit y avoir quelque chose qui effacera l'ardoise pour vous afin que vous puissiez hériter de l'immortalité. Et c'est-à-dire la nouvelle naissance, quand l'Esprit de Dieu entre en vous. Parce que cette immortalité est-à-dire un attribut du Dieu et Père éternel qui est-à-dire le seul roi immortel qui est-à-dire votre Père. Ainsi, lorsque vous êtes né de nouveau, son Esprit immortel qui habite maintenant vous vous rend maintenant immortel. Et quand vous vous débarrassez de cette chair mortelle, vous irez à votre corps spirituel immortel et cela vous place dans un tout autre classe d'être humain. Vous devenez fils de Dieu par la nouvelle naissance. 51 Voici, je vous dis un mystère, nous n'y mourrons pas tous, mais tous nous sont changés. Autrement dit, certains sont ordonnés à goûter la mort dans leur chair, mais d'autres n'auront pas à mourir pour revêtir l'immortalité. Et puis il nous dit quand et comment au verset 52 en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Quelle est-elle cette trompette qui sonnera? C'est-elle la trompette de l'évangile à la fête des tabernacles qui est-elle la fête des tentes? Vous voyez dans les saintes écritures à la fête des tabernacles des tentes, quand la trompette sonnait tous les croyants, de toute la terre, devait se rassembler dans la présence de Dieu pour la fête des tabernacles. Je crois que Dieu a donné cette fête comme type et ombre de son grand ministère de la résurrection qui conclut la parousia de Christ pour ce monde. Et puis Paul dit, sourire, à la dernière trompette, le dernier appel de l'évangile, qui sera l'appel de la résurrection, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54 Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 55 Ô mort, où est-ce ta victoire? Ô mort, où est-ce ton aiguillon? 56 L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. 57 Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 58 Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et nous connaissons cet esprit d'immortalité que Dieu nous donne, qui est son propre esprit, dont il dit que nous devons nous revêtir, ce qui signifie littéralement s'enfoncer dans ou s'immerger totalement dans. Oh là là! Imaginez-vous cela! Totalement immergé dans son esprit. Et puis frère Branham continue en disant, puis, ce corps, votre corps spirituel dans lequel vous êtes immergé, retourne chercher le corps glorifié. L'endoxazo. Dans la doxa du Zoé, le corps dans lequel le Zoé de Dieu vivra, c'est la raison pour laquelle Jésus alla en enfer, lorsqu'il mourut, et prêcha aux âmes qui étaient en prison. Il était revenu dans cette théophanie. Maintenant, pour référence, frère Branham fait référence au corps spirituel comme étant le corps théophanique. Oh! C'est merveilleux! Merci, Seigneur. 792 Corinthiens 5.1. Si ce corps où nous habitons sur la terre est terre des détruits, cette tente où nous habitons sur la terre, nous en avons un autre. Voyez-vous, nous avons contourné cela afin de venir directement de Dieu, la tribu, pour être chair et être tenté et testé par le péché, comme le fut Adam. Mais lorsque le test de sa parole est terminé, alors nous sommes amenés à ce corps, qui fut préparé pour nous avant la fondation du monde. C'est à la parole que nous avons sauté afin de venir ici en bas, pour être tentés et testés. Si nous avions passé par cela, il n'y aurait pas eu de tentation. Nous aurions su toutes choses. C'est à la raison pour laquelle Jésus savait toutes choses. C'est à parce qu'il était la parole avant d'être chair. 80 Puis, nous devenons la parole. Ici, nous sommes formés à l'image de la parole. Pour être participants de la parole, nous nourrissons de la parole, en étant prédestinés depuis le commencement. Vous voyez, cette petite étincelle de vie que vous aviez en vous, dès le commencement, dès que vous avez commencé votre voyage, beaucoup parmi vous peuvent s'en souvenir. Vous vous êtes joint à cette église-ci et joint à cette église-là. Vous avez essayé ceci et cela. Rien n'est mis vous a satisfait. C'est vrai. Mais un jour, vous l'avez simplement reconnu. C'est vrai. Questions et réponses sur les Hébreux 3:10-06.10.57640. Dieu est l'Esprit, qui s'est né à Dieu. C'est un seul esprit. C'est vrai. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui demeure dans l'Église, c'est l'Esprit qui est venu du ciel, celui que Dieu connaissait avant la fondation du monde, celui qui avait rejeté le mensonge du diable. Et cet Esprit devait revêtir un corps de chair pour être, pour subir ses épreuves. Il devait devenir chair comme l'avaient fait les autres là, et eux tous ont porté le même joug. Et Dieu, depuis le commencement, connaissait les esprits qui accepteraient et ceux qui n'accepteraient pas. Vous y êtes. Le diable est si malin. Séduira même les élus, si possible. Mais vous voyez ce n'est pas possible. Parce que Dieu avant les fondations du monde vous a choisi et vous a placé ici en cette dernière heure pour être son élu, pour le représenter et vous dresser contre le mensonge du diable et son test. Et sachant que vous n'avez mis, recevrez jamais la marque de la bête, et que vous étiez en lui avant les fondations du monde, il vous a marqué du sceau de Dieu, qui est la marque de Dieu, qui est le baptême de son esprit en vous. Vous immergeant en lui, par un seul esprit, vous baptisant en Christ, la même onction de la vie Dieu, vous attachant à la corde ombilicale de sa parole, et vous scellant à l'intérieur, vous êtes ainsi lié à sa parole par son esprit, sa vie, qui est en vous. Et il vous a vivifié à sa parole. Et donc vous connaîtrez et comprendrez les choses de Dieu, tandis que le reste du monde s'étonnera de la bête, et recevra son injection dans leurs bras, qui entrera alors dans leur esprit et dans leurs actions. Ainsi, vous pouvez être infecté par n'importe quel virus ou bactérie et souffrir dans le corps, mais votre esprit reste à Dieu, et ceux à qui il donne son esprit n'auront jamais peur. Car il nous a promis dans 2 Timothée 1.7, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et si Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, d'où est-ce que cela vient? Du diable. Romains 8.15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Remarquez, il a dit que le même esprit qui vous met en servitude est le même qui vous fait avoir peur. Non seulement il nous a pas donné un esprit de servitude ou de peur, mais d'amour et de sagesse. Un esprit rationnel. Un esprit qui peut avoir les idées claires. Et honnêtement, il faut un esprit rationnel pour accepter cette injection qu'ils imposent, sachant qu'elle est apposée à des personnes sans aucune véritable connaissance médicale. Même ceux qui ont déjà eu le virus et ont retrouvé une santé normale, ont l'immunité dans leur corps, mais les gouvernements du monde veulent qu'ils reçoivent aussi cette injection. Alors un esprit rationnel dirait, que se passe-t-il ici? L'encart qui Esther censé me dire ce qu'il y a dans cette injection Esther vide. L'esprit de sagesse dirait pourquoi? Ceux qui les donnent sont indemnisés. Et l'esprit de sagesse dirait pourquoi? Et les sociétés pharmaceutiques sont indemnisées. Et l'esprit de sagesse dirait pourquoi? Et tous ceux qui imposent cela sont indemnisés et vous n'y pouvez pas les poursuivre si vous tombez malade ou mourrez. Et l'esprit de sagesse dirait pourquoi? Et les gens la prendront pour revenir à la normale? Qu'est-ce ce qui est anormal pour eux? Est-ce ce normal pour vous de devoir encore porter un masque? Est-ce il normal pour vous d'avoir encore à respecter la distanciation sociale? Et donc nous avons un nouveau normal, qui est apposé aux gens? Mais l'esprit de sagesse dirait pourquoi? Ce n'est pas normal. C'est un comportement irrationnel d'y croire. C'est une logique malsaine. Donc, tous ceux qui prennent l'injection n'ont pas l'esprit de sagesse, mais ils sont motivés par la peur. Ils craignent la mort, mais la parole de Dieu nous dit que Jésus a enlevé cette peur de la mort en ressuscitant son Fils et en nous montrant qu'il y a une vie après la mort. Et ainsi ceux qui ont peur montrent qu'ils ont choisi de vivre dans la peur plutôt que de prêter attention à la parole de Dieu. Ils n'ont aucune foi en Dieu et en ce qu'il a fait à travers son Fils. Ils ont cru le mensonge qui a été dit à Ève, « Si vous prenez cela, vous n'aimez mourrez sûrement point et pourtant. » Jusqu'à présent, au moins 45 000 Américains sont morts dans les mois qui ont suivi les premières injections qui ont été administrées. Et ce nombre selon une étude de l'université d'Harvard pourrait être aussi élevé que les 450 000 personnes qui ont pris l'injection. Ce qu'ils craignaient le plus leur était arrivé. Alors, comment une personne avec le Saint-Esprit peut-elle avoir peur quand Dieu a dit qu'il nous a donné un esprit de sagesse et d'amour? Et pas du tout un esprit de peur. Maintenant, afin de continuer avec nos pensées de la semaine dernière, nous entendons Frère Branham dire dans son sermon Jéhovah Jireh 9 février 61, 49 nous avons au milieu de nous un des historiens les plus célèbres. Et j'aimerais demander à cet homme, ou à n'importe quel autre homme, de me montrer une seule fois où une église s'est organisée sans qu'elle Néhémie soit morte pour Néhémie plus se relever. Selon l'histoire des églises du monde, une telle église Néhémie s'est jamais relevée. Jamais. Dieu n'en veut pas. Dieu veut que nous soyons libres en lui. Il veut que nous arrivions au point où nous pouvons l'accepter entièrement. Néhémie restez pas sur cette montagne. Partez de là, postérité d'Abraham. Maintenant vous demanderez, êtes-vous contre l'organisation? Non. Non. Les organisations, ce n'est pas mal acquis. Mais le problème est que vous tracez une ligne de démarcation, et vous excluez toute personne qui n'y croit pas exactement comme vous. Ce que nous devons faire, c'est de tendre nos mains aux luthériens, aux méthodistes et à tous, de sorte que nous puissions avoir communion les uns avec les autres, alors que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Tant que nous n'arriverons pas à ce point-là, nous mourrons tout simplement. On reste juste là, rapetissé comme une vieille pomme rabougrie. Et là, vous êtes ridé comme une plaque mine, et vous vous asseyez là, disant, « Eh bien, je suis d'un tel. » Oh, là là, la vie n'y entre plus. Vous voyez? Nous n'y pouvons pas simplement faire cela. Non, nous devons venir pour rester en Jésus-Christ. Nous sommes des héritiers. Co-héritiers avec lui. Eh bien, tant que nous n'aimons, nous ne nous séparons pas des choses du monde. Maintenant, remarquez combien, dans ce message, nous entendons frère Branham frapper ici et là contre l'organisation, et le plus triste, c'est-à-dire que les gens qui devraient être le plus au courant finissent par s'organiser autour d'un certain ministère ou d'une certaine personnalité ou d'une certaine doctrine, au lieu de s'en tenir uniquement à toute la parole de Dieu, et de se concentrer sur cette parole que Dieu dévoile en cette heure et tirer la vie de cette parole. S'organiser, disait-il, c'est-à-dire la mort, et s'organiser n'est-à-dire pas différent de faire une dénomination. Le faire, c'est-à-dire mourir spirituellement. Même Jésus nous a enseigné cela. Il a dit que ceux qui s'organisent doivent être rassemblés pour être brûlés. Vous n'aimez brûlez pas les choses vertes et fraîches. Vous brûlez les vieilles choses desséchées, que ce soit du bois ou des branches, ou des cosses, ou quoi que ce soit d'autre. Le ver montre la vie, et il n'aimez brûle pas facilement. Mais ce qui est vieux et desséché brûle rapidement. Matthieu 13.24 Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » 25 Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. 26 Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. 27 Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? 28 Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? 29 Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'ayez mis des racines en même temps le blé. 30 Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Remarquez, Jésus souligne le fait que deux types de vie très différents, semences, seront plantées l'un à côté de l'autre dans le même champ. Le champ représente le monde, et le semi-ester d'abord fait par le propriétaire du champ. Et puis son ennemi entre dans son champ et émite son semi, mais avec une différente vie, semence. Maintenant, si nous nous intéressons au fait de cette parabole, nous voyons ce qui suit. Il y a un champ où la semence est semée, s'estera, dire une femme, une église. Il y a deux personnes qui sèment, deux sources de semences, le propriétaire du champ, et son ennemi, les deux semants des semences. Il y a deux semences qui sont semées, identifiant deux formes de vie de nature différente. Du blé et de l'ivraie. La semence de l'ivraie est une intrusion, mais on la laisse pousser à côté du blé jusqu'à la moisson, à cause du blé, jusqu'à ce que le blé soit suffisamment mûr pour supporter une séparation. Il doit y avoir une séparation avant la moisson, et nous voyons que cela amène une guerre. Toujours. L'ivraie doit être liée en gerbe. L'ivraie est destinée à être brûlée. Le blé doit être amassé mais pas lié en gerbe et doit être mis dans le grenier du propriétaire. Remarquez, les deux semences peuvent pousser côte à côte jusqu'au moment de la moisson. Ensuite, une séparation doit arriver. Il y aurait d'abord un rassemblement de la semence que l'ennemi a semée. L'ivraie va, en premier, commencer à se rassembler. Le fait d'avoir peur Néhémie vient pas de Dieu. Paul a dit dans 2 Timothée 1.7 car ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ainsi, nous pouvons voir par cela que d'avoir peur prouve que vous n'avez pas l'esprit de sagesse ou vous n'êtes pas saint d'esprit. Au paragraphe 123 de Néhémie, t'appuie pas sur ton intelligence, mais 20 janvier 65. Frère Branham dit, 123, ils peuvent se faire croire ça. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être condamné à cause de cela. Voyez-vous, c'est à l'exacte vérité. Il se forme. Peu importe ce que dit la parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient dessus. Ils y croient. Ils pensent que c'est la vérité. Vous pouvez continuer à croire un mensonge. Maintes fois. Jusqu'à ce que cela devienne pour vous la vérité. C'est ça exact. 1, 2, 4. Mais comment savoir si c'est la vérité ou pas? Dieu a confirmé que c'est la vérité. Parce que c'est dans sa parole et qu'il confirme cela. Il en donne lui-même l'interprétation. 1, 2, 5. Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font par leur culture, leur instruction, leur compréhension de leur diplôme de doctorat, et tout, montrant qu'ils ont fréquenté tel séminaire et qu'ils ont appris ces choses. Mais les gens choisissent de craindre ce que l'homme dit plutôt que de faire confiance à Dieu. Dieu nous a dit que la peur n'est pas de Dieu. À chaque fois que l'ange du Seigneur est revenu à l'homme, les premières paroles de sa bouche sont « Néhémie, crains pas, car je viens de la présence du Seigneur ». Nous trouvons aussi dans 1 Jean 4.18 que l'amour parfait ou mature bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. La peur cause des dégâts, parce que lorsqu'une personne a peur, elle est liée par ses peurs. Nous lisons dans 1 Jean 4 et l'apostrophe amour parfait ou mature bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Cela est lié au fait de se figer et de se cristalliser dans votre pensée. Joseph commença à craindre que Marie n'ait pas été fidèle et donc Dieu a envoyé son ange pour lui, dire de Néhémie pas avoir peur de prendre Marie pour épouse. Qu'est-ce que la peur a fait ici? Cela a amené Joseph à douter et l'a poussé à s'arrêter d'avancer avec le plan de Dieu pour sa vie. Puis quand ils arrêtent de marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, la vie s'éteint et ils se dessèchent et deviennent comme la balle que le vent emporte. Jean 8.12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit n'est ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 1.4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Par conséquent, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez en vous la lumière de la vie, et vous n'aurez pas peur de ce que l'homme vous dit, mais vous placerez votre confiance en Dieu. Daniel n'a pas eu peur de la fosse aux lions, Shadrach, Meshach, et Abednego n'ont pas eu peur de la fournaise ardente même après qu'elle a été chauffée 7 fois plus. Fr. Jesse Hoffman, le fils de Fr. Don Hoffman a partagé cette citation avec moi l'autre jour, et c'est si approprié pour cette heure où nous vivons, j'ai pensé la partager avec vous ce matin. Dans son sermon il jura par lui-même dîme 12 décembre 54 frère Branham dit, 102 Jésus-Christ. Peu importe même s'il a été dans une tempête et qu'un grand vent faisait baloter le bateau de part et d'autre, ou qu'il se tenait devant une multitude de démons, s'il se tenait quelque part, cela Néhémie l'a jamais ébranlé. Il marchait carrément tout aussi calme et tranquille qu'il le pouvait. Pourquoi? Il ignorait simplement la peur et tout ce qui l'entourait, c'était vrai. Si la chose allait s'accomplir ou pas, il était sûr que ça s'accomplirait parce que Dieu l'avait dit. Il ne disait pas, oh, je me demande si j'ai prié sérieusement. Je me demande si j'ai jeûné assez longtemps. Je me demande si j'ai fait telle chose. Il marchait carrément sans y faire attention. C'était juste. Il croyait que ce que Dieu avait dit était la vérité. Les Écritures devaient s'accomplir, et il savait ce que sa vie devait accomplir. C'était vrai. 103 et vous également? Vous êtes ici pour accomplir cela. Marchez en ignorant la peur. Marchez-vous en ignorant les critiques. Marchez en ignorant le monde. Marchez tel que vous marchez en Christ. Marchez avec lui, sans prêter attention à ce qui se passe à votre droite ou à votre gauche. Continuez simplement d'avancer. Lorsque quelque chose survient dans l'église, marchez avec Dieu. Alléluia. Si la maladie vous frappe, marchez avec Dieu. Si le voisin ne vous aime pas, marchez avec Dieu. Continuez simplement de marcher avec Dieu. 104 en Ocha marchait comme cela un jour. Savez-vous ce qu'il fit? Il est carrément rentré à la maison avec Dieu. Il était tellement avancé sur la route qu'il ne voulait plus retourner. Amen. 105 marchait avec Dieu. Si le médecin dit que vous allez mourir, marchez avec Dieu. Oui. Si le médecin dit que vous ne pouvez pas vous rétablir, marchez avec Dieu. Marchez simplement avec Dieu, c'est tout. Car Dieu vous a promis, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et il fait serment, par cette alliance qu'il a faite avec vous, qu'il confirmerait cela. Alors, marchez simplement avec Dieu. N'est-ce pas la meilleure citation que vous ayez entendue pour ce jour dans lequel nous vivons avec toutes ces épreuves et ces tests? Peu importe ce qui se passe, marchez simplement avec Dieu. Dans son sermon il y a ici un homme qui peut allumer les lumières d'Im, 29 décembre 63. M. Frère Branham dit, 74 il n'y a donc de vie que par la parole de Dieu rendue manifeste. La vie n'est mise vient que par la parole de Dieu rendue manifeste. Aussi longtemps qu'elle est juste dans le livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c'est rendue manifeste, vous voyez alors manifester le produit de ce dont elle parlait. C'est alors la lumière sur la parole. Voyez? C'est ce qui apporte. Quand la parole dit une chose et qu'ensuite cela s'accomplit, c'est la vie dans la lumière apportant la veille. 75 est la lumière apporte la vie. Si vous plantez du blé ici, cela va. Si vous le placez dans une cave et que vous le couvriez entièrement, il n'y produira jamais quelque chose parce qu'il n'y le peut pas. Il n'y a pas de lumière là. Mais dès que la lumière le frappe, il produira alors la vie. Si c'est une semence qui a la vie, il en est de même pour la parole. Voyez? La parole est Dieu et quand la lumière la frappe, cela l'amène. La lumière frappe cela. Cela vivifie de nouveau la parole. Chaque âge a toujours été comme cela. Et parlant de sa parole, qui nous est manifestée, la parole prend vie. Il dit aussi dans son serment les choses qui doivent arriver d'Im 5 décembre 6532. Or, si c'était le cas, Jésus était la plénitude de Dieu manifestée. Il était la plénitude de Dieu dans un corps. Par conséquent, quand il est revenu sur terre et qu'il a été manifesté dans la chair, vous étiez alors en lui puisqu'il était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. La parole a été faite chair. Par conséquent, vous marchiez avec lui. Quand vous étiez en lui quand il était sur terre. Vous avez souffert avec lui. Et vous êtes mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui. Et maintenant, vous êtes ressuscité avec lui. Et vous êtes des attributs de Dieu manifestés. Assis dans les lieux célestes. Déjà ressuscité. Ressuscité à une vie nouvelle et assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh! C'est tellement important à l'heure où nous vivons. Église. C'est tellement important pour nous de nous voir placés dans notre position en Jésus-Christ. Sinon, comment pourrions-nous être manifestés avec lui? Il est la parole. Alors nous devons devenir un reflet parfait de cette même parole afin d'être manifestés comme il est manifesté. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Remarquez qu'il a dit, la vie était la lumière. Sa vie est sa lumière ou sa parole. Puis quand la parole vient à la vie, et se manifeste, c'est à la lumière des hommes. S'il est donc notre vie doit venir de sa parole. Alors quand sa parole se manifeste, notre vie doit aussi manifester la même chose. Puis comme Paul dit, ce n'est pas vraiment notre vie mais sa vie en nous qui se manifeste. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors qu'est-ce ce qui se manifeste? Cela n'est mis peut-être que sa parole. Et où s'inscrit la peur? Nulle part. La peur n'a pas sa place dans le royaume de Dieu. Mais la peur est l'une des principales règles mises en place pour contrôler et maintenir un grand nombre de personnes. Or, écoutez ce que frère Branham dit dans la citation suivante, le chef-d'œuvre d'Im, 5 juillet 64, 137 par contre, tout ce qui a formé une dénomination est mort. Par exemple, la vie qui est atteint Luther a servi à former Wesley. Et, de Wesley, elle est passée dans la Pentecôte. Et, à partir de la Pentecôte, elle a servi à former la semence originelle. Elle sort du groupe de Wesley, où elle reste jusqu'au moment de passer dans la Pentecôte. La raison pour laquelle la Pentecôte est sortie de Wesley, c'est parce qu'elle n'était pas une dénomination. La Pentecôte n'en était pas une. Ensuite, la Pentecôte a formé une dénomination. Et qu'a-t-elle fait? Elle est devenue la balle. Elle ressemblait à la chose véritable. Remarquez, il nous montre que la vie, qui monte dans une sorte de résurrection, comme la sève qui monte au printemps, est une sorte de résurrection, et l'arbre revient à la vie après être resté dormant tout au long de l'enterrement hivernal. Il dit que cette vie commence à apparaître en Luther, puis dans le message de Wesley et ensuite dans le message de la Pentecôte et maintenant elle revient à nouveau à la semence de la parole au temps de la fin. Puis il contraste le cycle de la vie avec la mort montrant que lorsque la vie quitte quelque chose, cette chose doit mourir. Et il nous donne l'indice qui établit qu'elle est morte, c'est qu'elle devient une dénomination ou une organisation. 138 N'importe qui. Combien ont déjà vu une semence de blé qui commence à pousser? La première petite chose, c'est quoi? C'est tout à fait semblable à la semence. Mais c'est la balle. Voyez-vous les trois étapes? La tige, les graines ou le pollen, ensuite la balle. Et alors? De la balle sort la semence originelle. Voyez? Ce n'était pas une semence. C'était la vie de la semence qui se développait à travers ces étapes pour en arriver à la semence. Amen. Amen. Le voyez-vous? Qu'est-ce? Une résurrection? Pour former de nouveau un chef-d'œuvre? Pareil à celui qui est tombé en terre. 139 et la Pentecôte est sortie de Wesley. Parce que Wesley était alors une organisation. La Pentecôte, qui n'était pas une organisation, est sortie, et après, elle en est devenue une. Il le fallait, pour qu'elle forme la balle. La véritable parole de vie qui était sur elle allait donc former le grain originel. À travers ces étapes, elle est alors passée de la tige dans le pollen, du pollen, dans la balle, et de la balle, elle a produit la semence. 140 Non, la tige, les graines, la balle, encore une fois, Nous le voyons continuer cette pensée de la vie de Dieu alors qu'elle monte à travers les différentes étapes de l'Église. Et chaque étape de cette action du Seigneur est identifiée à un message qui a balayé le monde. C'était la vie de Dieu ramassant toutes les semences prédestinées de Dieu se trouvant là. Maintenant, dans le paragraphe suivant, je ne sais pas comment on pourrait le rendre plus clair que ce que frère Branham nous dit ici. 140 Quand elles étaient en vie, elles ont produit, au début de leur réveil, un porteur d'une certaine partie de la vie de la semence. Mais, quand elles ont formé une organisation, la vie en Esther sortit. Nous en avons la preuve tout au long de l'histoire. Jamais une organisation n'a produit quoi que ce soit après s'être organisée. Elle était morte. C'est ça exact. 1.14 Regardez bien. La vie continue son trajet. Là. Elle continue à avancer. 1.14 De remarquer. Ce qu'elles ont fait. Ce que toutes celles-là ont fait. L'histoire nous prouve que c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour les églises. Elle n'allait plus jamais lui être utile. L'organisation a été mise au rancard. Tout au long de l'histoire, il n'y a jamais une église qui n'ait mis soit morte après s'être organisée. L'organisation est morte, et elle n'est mis s'est plus jamais relevée. Néhémie, le voyez-vous pas? Homme aveugle, ouvrez les yeux. La nature et la parole sont l'œuvre en coordination, et elle le prouve, ici même, que ceci, c'est la vérité, que c'est la vérité. La vie sort de la tige pour former l'aigrette. De l'aigrette, elle forme la balle, et de la balle, elle, prend de nouveau forme dans le grain originel. Remarquez, elle n'allait jamais plus lui être utile. Maintenant, je ne sais pas à quel point une personne pourrait le dire plus clairement que ce que frère Branham nous dit ici. Une fois qu'un mouvement de Dieu s'organise, il n'est plus jamais utile à Dieu. Chaque dénomination a commencé avec une certaine vérité, mais quand il commence à organiser cette vérité, c'est à ce moment-là que la vie en Esther sortit. Il a dit, elles ont produit, au début de leur réveil, un porteur d'une certaine partie de la vie de la semence. Mais, quand elles ont formé une organisation, la vie en Esther sortit. J'espère que vous qui écoutez ce sermon ou qui le lisez sur l'internet, saisissez ce que frère Branham dit ici. N'essayez pas d'organiser ce message. Dès l'instant où vous le ferez, la vie de Dieu sortira de ce que vous tentez d'organiser. Maintenant, que signifie organiser le message? Parce que c'est vraiment ce que nous Néhémie voulons pas faire. Je Néhémie crois pas qu'il y a quelqu'un qui veuille s'organiser à partir de la vie de la parole. Mais ils le font quand même, sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Afin de mieux comprendre ce que signifie organiser, lisons ce que nous dit le dictionnaire. Organiser, 1. Rassembler en un tout ordonné, fonctionnel et structuré. Maintenant, il n'y a rien de mal à qui être structuré ou ordonné, ou avec le fait de rendre les choses fonctionnelles. Par conséquent, donc jusqu'ici ce que nous lisons au sujet d'organiser Néhémie ressemble pas à quelque chose qui serait tellement affreux que Dieu en serait mécontent. Mais lisons la suite, car les définitions deviennent un peu plus définitives. 2. A. Organiser sous une forme cohérente, systématiser, organiser ses pensées avant de parler. Maintenant, encore une fois, il n'y a rien de mal à qui à présenter la doctrine du message d'une manière cohérente. Et pour faire cela, vous devez la systématiser ou la ranger de manière ordonnée afin d'en rendre la présentation plus facilement compréhensible. B. Disposer dans un modèle ou une structure souhaitée, encore une fois, il n'y a rien ici qui ferait que la vie de Dieu prenne la fuite, parce que même la vie de Jésus a été bien structurée, et a établi le modèle à suivre pour tous les autres fils. Mais la définition suivante commence à donner une certaine clarté sur le danger de l'organisation. 3. Organiser systématiquement pour une action harmonieuse ou solidaire, puis il donne quelques exemples de cette organisation pour former une union, ou organiser une grève. 4. A. Se constituer en organisation, ou organiser un club. B. Inciter les employés à former ou à rejoindre un syndicat. C. Inciter les employés d'une entreprise ou d'une industrie à se syndiquer ou à rejoindre un syndicat, ou organiser une usine. Développer ou assumer une structure organique. Maintenant, j'ai beaucoup de citations où Frère Branham relie le fait d'organiser les travailleurs ou de rejoindre un syndicat à la marque de la bête et au boycott. Nous n'avons pas le temps ce matin d'aborder cela. Mais regardez simplement comment ils se sont organisés autour du vaccin. Et ils créent différentes façons de boycotter toute personne qui n'était pas vaccinée. Autrefois, c'était démocrate et républicain. Puis c'est devenu libéral contre conservateur. Mais maintenant tous les deux, les démocrates et les républicains sont vaccinés, alors maintenant c'est vacciné contre non-vacciné. Pas l'inverse. La plupart des non-vaccinés s'en fichent si une personne prend l'injection ou pas, aussi longtemps qu'ils n'estèrent pas obligés de la prendre. Mais cela n'est suffit pas pour les vacciner. Ils veulent que tout le monde soit vacciné. Qu'est-ce il arrivé à mon corps, mon choix, qui était autrefois le mantra de tous les libéraux, mais plus maintenant. Votre corps non vacciné les menace. Donc, ce que nous voyons ici est une évolution d'une tentative inoffensive de présenter un message d'une manière ordonnée afin que les gens puissent mieux le comprendre. À un point où il organise vraiment les gens dans une action harmonieuse, qui lie les gens à une valeur fondamentale de croyance et exclut les autres qui n'adhèrent pas à ces croyances. C'est-à-dire ce que chaque fausse doctrine a fait. Elle s'est glissée dans n'importe quel mouvement de Dieu. Et c'est-à-dire ce qui s'est même produit dans ce message avec des mouvements comme le groupe des tonnerres et le groupe des deux âmes, le groupe des bandes seules, etc. Et remarquez, quand ils font cela, la vie de la parole les quitte, et ils commencent à établir entre eux une hiérarchie d'hommes dans laquelle, si vous n'aimez les écoutez pas, vous êtes considérés comme exclus de tout cela. Quand les gens atteignent cet état, ils sont vite pris dans l'organisation. C'est-à-dire pourquoi Frère Vell a dit, vous n'avez pas à entendre cela de moi, mais vous devez prendre position pour cette vérité. Peu importe de qui vous entendez la doctrine de Christ, mais vous feriez mieux de l'entendre, car l'apôtre Jean a dit, celui qui n'a pas la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Vous voyez donc qu'il y a un réel danger à chaque fois que vous essayez d'améliorer ce que Dieu a donné par inspiration. Le danger survient quand les gens essaient d'organiser n'importe quel mouvement de Dieu. Et la raison pour laquelle ils organisent un mouvement de Dieu, c'est-à-dire parce qu'ils sont pas satisfaits de la façon dont Dieu l'a présenté au départ, et ils essaient de le façonner en ce qu'ils pensent être une meilleure façon de le présenter. Et ils finissent par prendre une parole qui change la vie et en fait une parole orientée vers les œuvres. Il suffit de regarder n'importe quel endroit où Dieu a un vrai pasteur ou un vrai enseignant ou un, et quand cet homme quitte la scène, les gens essaient de s'accrocher à ce qu'il leur a apporté, et très vite ils commencent à organiser un ensemble de règles pour protéger leur credo. Et alors la parole devient pour eux règle sur règle, précepte sur précepte, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, et puis ils retombent dans ce dont ils sont sortis, ce qui était les œuvres. Et si vous pensez que j'ai tort, lisez simplement la traduction NIF d'Esaïe chapitre 28. Esaïe 28.8 « Toutes les tables sont couvertes de vomissures et il n'y a pas un endroit sans saleté. Maintenant, qu'est-ce que la vomissure si ce n'est de la nourriture d'un autre jour qui s'est mélangée dans l'homme ? puis qui est-ce à régurgiter? 9. Qui cherche-t-il à enseigner? À qui explique-t-il son message? Aux enfants sevrés de lait? À ceux qui sont près du sein maternel? Non, je n'y pense pas. Parce que l'apôtre Paul a dit alors que vous devriez être des docteurs, des enseignants. Vous en êtes encore au lait. Non, ceux qui sont encore au lait voient les choses un peu différemment. Paul a dit quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Par conséquent, je parlais comme un enfant et j'agissais, d'une manière enfantine. Mais quand je suis devenu homme, je devais mettre de côté les pensées enfantines, qui se traduisent par des paroles enfantines et des actions enfantines. Alors, la parole du Seigneur devient pour eux, discar sester à eux, faites et faites, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Remarquez que leur perception de la parole se résume au légalisme, de faire et de ne pas faire. 11. Très bien donc. Sester avec des lèvres étrangères et des langues étrangères que Dieu parlera à ce peuple. Donc si Dieu parlera à ce peuple, alors ce qu'ils entendront sera ainsi dit l'Éternel, et sester le repos que Dieu a pour ses élus. Les élus s'appuient sur l'ainsi dit l'Éternel. 12. À qui il a dit, sester ici le lieu de repos, que les fatigués se reposent, et sester ici le lieu de repos, mais ils n'ont pas voulu écouter. Oh! Ainsi nous avons un prophète qui a frappé à la chair pendant qu'il prêchait sur le septième sceau et pendant qu'il frappait à cette chair, il a dit, il y a un temps de répit sous le septième sceau. Pp 252 du septième sceau. Et remarquez ce qu'on nous dit ici dans Esaïe. Cette langue étrangère apportera le repos mais le peuple n'écoutera pas. Et donc s'ils n'écoutent pas, ils n'entreront pas dans ce repos mais reviendront aux œuvres. Et sester ce que nous lisons dans le verset suivant de Esaïe. 13. Ainsi donc, la parole de l'Éternel sera pour eux, faites et faites, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, pour qu'ils avancent et tombent à la renverse, soient blessés, pris au piège et capturés. La formulation Néhémie pourrait être plus clairement exprimée ici. On nous dit que parce qu'ils n'écouteront pas la voix du Seigneur, ils refuseront alors le repos et entreront dans les œuvres. Faites et faites, et règle sur règle. Et donc nous voyons une indication très claire d'un peuple qui quitte la vie de la parole, qui a franchi l'homme des œuvres, et qui le fait entrer dans le repos, mais quand il quitte cette parole, ils reviennent toujours aux œuvres. Maintenant, il Néhémie dit pas qu'ils abandonnent sciemment la parole de Dieu pour des œuvres. Personne Néhémie fait cela. Mais il dit, très ainsi donc, la parole de l'Éternel sera pour eux, faites et faites, règle sur règle, un peu ici, un peu là, pour qu'ils avancent et tombent à la renverse, soient blessés, pris au piège et capturés. Vous voyez que la parole du Seigneur devient pour eux des œuvres. Autrement dit, ils commencent à essayer de le faire par eux-mêmes parce que la vie de la parole les a quittés quand ils refusent le repos que Dieu nous a donné en entrant en Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par conséquent, observez simplement tout mouvement de Dieu et le moment où le ministère que Dieu utilisait disparaît de la scène. Beaucoup de ceux qui ont suivi ce ministère commenceront à essayer de s'accrocher à ce qui a été enseigné, mais ce faisant, ils l'organisent et quand la vie disparaît, et que le repos s'en va, les œuvres suivront toujours. Au lieu de prêcher la vie qui estère dans la parole, les sermons se concentreront sur la tenue vestimentaire et la conduite et la théologie de la corde à linge, et la musique et bientôt les gens vont se regarder et chercher les fautes des uns des autres et alors ils commenceront à se séparer, en clics et clans. Et une fois que cela s'Esther produit cette œuvre Esther sur le point de disparaître spirituellement. Oh! Ils peuvent finir avec plus de gens que le ministère qui reste avec la parole. Mais ce n'est-ce pas surprenant, parce que l'apôtre Paul dit, dans Galates 4.27 « Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Et celle qui a un mari Esther une épouse. » Vous savez que Jérémie pourrait pas assez lire ce verset de la Bible pour vous avertir de ce qui se passe dans ce message encore aujourd'hui. 9. Qui cherche-t-il à enseigner? À qui explique-t-il son message? Aux enfants sevrés de lait? À ceux qui viennent du sein? Je n'y pense pas. 10. Car, pour eux, c'est Esther, fête et fête. Fête et fête. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu là. 11. Très bien alors. C'est Esther avec des lèvres étrangères et des langues étranges que Dieu parlera à ce peuple. 12. À qui il a dit, c'est Esther ici le lieu de repos? Que les fatigués se reposent. Et? C'est Esther le lieu de repos? Mais Néhémie voulait pas écouter. Ce seraient des gens qui jouent les bandes mais qui n'écoutent pas vraiment ce qui Esther dit. Alors? La parole de l'Éternel pour eux deviendra, fête et fête. Fête et fête. Règle sur règle. Règle sur règle. Un peu ici. Un peu là. Pour qu'ils aillent et tombent à la renverse. Soient blessés. Pris au piège et capturés. Maintenant. Dans le sermon de frère Branham le chef d'œuvre. Il dit aux pages 143 combien cette chose est vraiment remarquable. Son trajet dans le grain de blé est bien différent de son trajet dans l'arbre. Dieu a dit de son peuple qu'il était semblable à un arbre. Voyez, la vie descend dans l'arbre, et elle remonte, elle descend et elle remonte. Voyez, elle descend et elle remonte. Mais dans le grain de blé, elle monte à partir de la tige originelle. Dans la tige, l'aigrette, la balle, est ce qu'elle a traversé meurt. Alors elle Néhémie peut plus y retourner. Qu'est-ce? Ce n'est-ce plus d'aucune utilité. Elle poursuit son chemin vers sa perfection. Amen. Néhémie, voyez-vous pas pourquoi il n'a jamais utilisé une organisation? Il Néhémie peut plus y retourner. Elle est morte. Mais la vie continue à se transmettre de l'un dans l'autre. Voyez. Ils introduisent des credos. Et ils injectent. Quiconque ajoutera une seule parole, ou retranchera une seule parole. Voyez, il n'y a plus accès. C'est Esther la semence de vie qui doit continuer son trajet. Et à chaque époque, après chaque réveil, une fois que les gens s'éloignent de la lumière que Dieu leur a envoyée, et reculent dans les programmes d'œuvre, la ville est quittée et Dieu avance avec sa lumière. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4 et verset 17 que lorsqu'ils perdent la compréhension qu'ils ont de la parole, la vie de Dieu les quitte aussi. Éphésiens 4.18 Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est terre en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, parce que leurs cœurs sont aveugles et qu'ils sont volontairement ignorants, alors qu'ils s'éloignent de la compréhension qu'ils avaient, ils se coupent en fait de la vie de Dieu. En substance, ils s'éloignent de la fontaine de vie. Il n'y a jamais de raison d'arrêter de prêcher la doctrine pour revenir aux œuvres, car Christ est la doctrine. Si vous prêchez Christ, le cœur des gens sera rempli de vie et il n'y aura pas besoin de prêcher une religion de corde à linge. Remplissez une personne de la vie de Dieu et Dieu vivra à travers eux. Et peu importe ce que vous faites pour nettoyer votre vie, si vous n'êtes pas né de nouveau, ce n'est pas acceptable pour Dieu de toute façon. Tout ce genre de justice, c'est comme des haillons sales. C'est ce qu'il a dit. À nouveau dans le chef-d'œuvre ETP. 147 frère Branham dit, 147 est remarqué, Alors, la balle, quand elle apparaît, son aspect est tout à fait semblable à celui du grain. Mais quand la vie du grain commence à sortir de la balle, pour aller former le grain, l'épouse, la balle s'ouvre et elle excommunie le grain. Pas vrai? La nature, et c'est exactement ce qu'elle a fait, 1:4-8 dents tirées dans Apocalypse 3. Nous voyons que l'âge de l'église de Laodicée l'a mis à la porte. Or, voyez-vous, ce n'était pas arrivé dans les autres âges, parce que quelque chose d'autre devait encore être produit. Elle n'a fait que passer de l'un à l'autre, continuer son trajet. Je vous le dis, depuis le début, il n'y a plus d'autres dénominations qui vont venir. Nous sommes à la fin. Et ils l'ont mis à la porte, pourquoi? Parce qu'il y lit Esther la parole. De nouveau. Il est Esther comme celui qui est Esther tombé, là. Il est Esther la même doctrine qui était apparue au commencement. 1:4-9 et quand la parole semence commence à se développer, la balle la repousse. La vie quitte tous les autres, pour qu'ils la suivent. Voilà les vrais croyants. Ils suivent la vie partout où va la vie. Maintenant, remarquez encore une fois que frère Branham dit que les vrais croyants n'y s'organiseront jamais, mais qu'ils suivront cette vie où qu'elle aille. Frère Vell m'a dit dans son salon il y a quelques années, ils disent que quand je serai parti, cet enseignement sera terminé. Mais ils ont tort. Car tant que le Saint-Esprit est ici, il y aura des enseignants. Parce que le Saint-Esprit est l'enseignant. Et remarquez ce que frère Branham dit, il est la parole. De nouveau. Il est comme celui qui est tombé, là. Il est la même doctrine qui était apparue au commencement. Il doit donc s'agir de la doctrine. Parce que si vous vous concentrez sur la doctrine de Christ, vous avez Dieu. Point final. Et Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Et le mot as traduit du mot grec écho. Et donc celui qui fait écho au Fils fait écho à la vie. Et celui qui fait écho à la doctrine de Christ fait écho à Dieu lui-même. Ainsi comme la vie continue de se déplacer, la doctrine de Christ continuera d'être enseignée par ceux qui ont été fidèlement enseignés. Et quand une église arrête d'enseigner la doctrine et commence à se concentrer sur les règles, l'ordre, et faites, elle a perdu son premier amour et a quitté la doctrine de Christ, et quand ils font cela ils n'y font plus écho ou n'y reflètent pas la vie, ni n'y font pas écho ou n'y reflètent pas Dieu, et Dieu estère la vie. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens 3:4, quand Christ, votre vie, Phanero. Pour se manifester dans son vrai caractère, alors vous Phanero aussi, vous vous manifesterez aussi dans votre vrai caractère, avec lui dans la gloire. Et nous savons que cette doxa est l'opinion, le jugement et l'estimation de Dieu. Par conséquent, lorsque Christ qui est notre vie apparaîtra, notre vie se manifestera aussi dans son vrai caractère, que nous savons avoir été ordonnés à avoir la pensée de Christ en nous. Dans les ondes du temps de la fin d'hymne 25 juillet 65, M. frère Branham dit, 233 maintenant, vous retournerez en arrière pour essayer de revivre. Que se passerait-il si cette vie redescendait? Est-ce ce que vous pensez que cette vie parlerait? Qu'elle retournerait à, cette vieille balle toute sèche? Qu'elle retournerait pour revivre encore dedans? Elle n'est mis le fait jamais. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui n'ont pas continué à avancer avec la parole, alors qu'elle s'accomplissait. Ils sont morts, finis. Et les épines et les chardons, qui sont prêts d'être rejetés, dont on finit par y mettre le feu. Pas vrai? Maintenant, je vais me dépêcher aussi vite que je le peux. 1 Jean 1:2 car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Les morts nés et mis grandissent pas. Les morts nés et mis manifestent pas non plus la vie. Et les nés et mis peuvent certainement pas changer non plus. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 3.18 nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire, doxa, du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de doxa en doxa, comme par le Seigneur, l'Esprit. Maintenant, l'apôtre Paul nous a dit ici que lorsque nous regardons dans le miroir de la parole, nous sommes transformés en l'image que nous voyons dans la parole, qui est Christ, qui est notre lumière. Et puis il nous dit que nous sommes changés d'image en image et de gloire en gloire, de doxa en doxa, qui est l'opinion, l'estimation et le jugement de Dieu. Ainsi il nous dit que nous sommes changés à l'image de Christ, qui est notre lumière et que nous sommes changés d'une opinion à une autre, et à une autre et à une autre jusqu'à ce que nous parvenions à la pensée ou la doxa même de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons devenir un avec Dieu tout comme Christ et Dieu était un. Jean 14.20 Ce jour-là, quel jour? Ce jour-ci. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. 21 Celui qui a fait l'écho de mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. 22 Jude, non pas l'Iscariot, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Et non au monde? 23 Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 24 Celui qui n'aimit, même pas n'aimit garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et nous savons tout ce que demeure signifie, n'est ce pas, vivre en nous. Et pour finir, examinons Jean 17.20-22 ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. 21 Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire, la doxa, les opinions, les valeurs et les jugements que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme ou de la même manière que nous sommes un. Par conséquent, nous devenons un avec Dieu de la même manière que Jésus et Dieu étaient un, et s'estèrent par sa parole. Dieu estère la parole et Jésus était la manifestation de cette parole. Il estère donc très évident que nous devenons un en recevant la même parole qui nous amène à la même gloire ou à la même pensée que le Père. Je leur ai donné la gloire, la doxa, que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le temps de la moisson samedi 12 décembre 64-87 Jésus a dit, afin qu'ils soient un. Père, comme toi et moi nous sommes un. Non pas qu'un homme soit au-dessus de quelque chose, cela n'y marchera jamais, une dénomination veut être au-dessus de l'autre, et un homme veut être au-dessus de l'autre. Mais, que vous soyez un avec Dieu, comme Christ et Dieu étaient un, c'était ça la prière. Il était la parole. Et Jésus a prié que nous devenions la parole. Que nous le reflétions. C'est sa prière, qui doit être exaucée. 88 Voyez-vous comment Satan a introduit cela dans la pensée charnelle? Mais ce n'était pas ça la prière de Jésus. Pas du tout. Que nous formions tout une seule assemblée et que nous ayons tout un certain credo et autres. Chaque fois qu'ils font cela, ils s'éloignent davantage de Dieu. 89 Il veut que nous soyons un avec Dieu, et Dieu estère la parole. Chaque individu, dans son cœur, doit être un comme ça avec Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière.